16h35 dans le Point Max à Boulevard 102.1. 88-971-1021 par texto. S'il y a quoi que ce soit, vous rappelez cette transaction d'importance dans la Ligue nationale de hockey, les Pingouins de Pittsburgh qui envoient le gardien Tristan Jarry et le Québécois Samuel Poulin aux Oilers d'Edmonton. En retour de Stuart Skinner, Brett Kulak, l'ancien défenseur du Canadien, et d'un choix de deuxième ronde en 2029. Je réitère que je pense que les Oilers se font fourrer sur celle-là, que Tristan Jarry va se faire percer, que Stuart Skinner est limite un meilleur gardien que Tristan Jarry, qu'en plus de ça, tu t'affaiblis en défensive en envoyant Kulak à Pittsburgh. Puis comme c'était pas assez, il faut que tu donnes un choix de deuxième ronde dans l'eau. Les Oilers d'Edmonton qui se font avoir et pas à moitié avec cette transaction-là. Et aussi, au bout de l'année, les Oilers soulèvent la coupe avec Tristan Jarry dans le net. Vous me ressortirez l'extrait, puis ça va me faire bien plaisir. Mais j'ai vraiment, mais vraiment pas l'impression que c'est ce qui va arriver. En studio, un invité qu'on aime bien dans le Point de Max, Charles Fecteau, qui vient nous jaser politique à l'occasion. Salut Charles.
Bon matin Max, ça va?
Yes, ça va toi?
Yes.
Ça va bien pour ton parti libéral?
Ça va toujours très bien, en forme. Écoute, les sondages, ils sont généreux.
Oui.
On anticipe un gouvernement majoritaire. Moi, je très excité, j'ai hâte de voir ça.
Ça, c'est des semaines difficiles, hein? C'est des semaines qui brassent en général en politique, là.
Ben, c'est parce qu'à chaque jour, il y a une nouvelle.
Je l'appelle le calendrier de l'Avent, Pablo Rodriguez, moi.
Ouais, un calendrier. Ouais, effectivement, chaque jour, il y a une nouvelle surprise, mais écoute, il y a 2 ans, quand j'ai commencé, on visait un gouvernement majoritaire. Il y a 1 an, c'était minoritaire. Il y a 6 mois, il fallait que le PQ soit minoritaire. Puis en ce moment, j'ai l'impression que le seul objectif, c'est de rester à l'Assemblée nationale. Fait qu'écoute, j'ai hâte de voir, on va être où dans 6 mois, mais tu sais, c'est un gros mois de décembre, puis mois de novembre pour le Parti libéral du Québec. J'ai hâte de voir comment on va rebondir.
Ben d'ailleurs, je veux qu'on entende là un segment du point de presse des libéraux de ce matin avec Pablo Rodriguez qui a dû se défendre face à la controverse du jour. À l'effet que, puis c'est le Journal de Québec qui nous l'apprend, là, un groupe de militants libéraux a déposé une plainte à Élections Québec au sujet d'indemnité de départ fédérale signée Pablo Rodriguez pour plusieurs proches collaborateurs qui l'ont aidé durant sa campagne à la chefferie.
Montréal. Ce matin, on apprend qu'il y a des militants qui ont déposé une plainte au DGEQ concernant des indemnités de départ que vous avez vous-même signées à des gens qui sont venus faire du bénévolat ensuite pour votre campagne à la chefferie et dont certains travaillent maintenant au Parti libéral du Québec. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Vous dites que tous les militants sont derrière vous, là.
Mais tout d'abord, j'ai répondu à votre question il y a très longtemps. C'est une question?
Aujourd'hui, il y a une plainte au DGEQ qui vient de militants libéraux.
Cette question-là, elle me fut posée plus d'une fois. Et ce que j'ai dit, c'est que lorsqu'un ministre perd son emploi, ben, ou quitte, tout le personnel perd son emploi et ils ont ce genre de rémunération-là normée, prévue, tout est fait, accepté par le bureau du premier ministre, par le conseil privé, par le conseil du trésor, tout fut respecté à la lettre. S'il y a des gens qui veulent aller...
Discrétionnaire qui était de vous.
Non, il n'y a pas de montant discrétionnaire. C'est mal compris.
Il y a des mois discrétionnaires.
Si,
vous l'avez même admis.
S'il y a des gens, comme vous dites... Voulez-vous qu'on engage un dialogue ou vous voulez que je vous réponde?
Allez-y.
S'il y a des gens, comme vous dites, qui ont été au GQ, si la plainte est infondée, ils peuvent y aller pareil, là. Ils ont le droit. Ça ne change rien.
Donc, c'est ce que vous avez à dire à vos militants qui ont déposé cette plainte?
Ils peuvent y aller, même s'il était fondé, ils ont le droit d'y aller. Mais le Parti libéral du Québec est uni. Et uni, on gagne l'élection. Divisé, on la perd. Et tout le monde comprend ça. Et c'est pour ça que le caucus est uni, nos membres sont unis, nos présidents sont unis. Est-ce que je fais l'unanimité? Non. Nommez-moi un chef dans l'histoire. Tous les partis confondus qui ont fait l'unanimité. Il n'y en a pas. Et c'est normal.
Donc, Pablo Rodriguez qui lève le ton à la fin de l'extrait en parlant du fait que non, je fais pas l'unanimité, mais on est unis. Puis tu sais, en effet, ce matin, derrière Pablo Rodriguez, les députés étaient là.
Ben, il en manque un, là.
Oui,
il manque Greg.
Ouais.
Non, il manque Greg. Greg,
oui.
Il est encore dans le caucus, là.
Ouais.
Tous ses députés, moins un, là.
En effet, qui est le conjoint de Mme Risky, là, fait qu'on comprend la drôle de situation, drôle pas pour lui.
Non, à la Lionel Carman. Là.
Dans laquelle il se trouve, en effet. Mais tu sais, cette image d'unité-là, là, il n'y a personne qui l'avale. Tu sais, je veux dire, oui, ils sont tous là, puis des fois, ils applaudissent un peu quand Pablo Rodriguez donne une bonne réponse, puis parle d'unité. Puis... Mais fais-moi pas croire que dans tous ces élus-là sont vraiment tous encore 100% derrière Pablo Rodriguez, puis pensent encore que c'est l'homme de la situation, là. Pas 100% loin de là.
Mais non, puis, tu sais, dans la chefferie, t'avais environ, je sais pas, le 2/3 des députés avec Pablo, 1/3 avec Charles, puis t'avais des anciens députés. Là, dans les députés avec Pablo, on avait Marois et Greg, qui sont, bon, qui sont plus derrière lui, évidemment. Après ça, on avait des anciens députés qui sont maintenant à la TV pour dénoncer Pablo Rodriguez, des anciens appuis qui le dénoncent. Fait que t'avais à la base la moitié de ton caucus qui voulait un autre candidat.
Ouais.
Ça fait pas tant longtemps, là. Ben la non. Chefferie, ça fait pas... C'est pas il y a 2 ans, là. C'est pas comme, OK, on est redevenu une grande famille, là. Il y a encore, selon moi, certaines frictions.
C'est clair.
Puis surtout dans un contexte comme ça, c'est pas inconditionnel comme amour, là. Tu sais, c'est pas... Fait qu'à un certain point, je trouve que Pablo, puis plus il les répète, puis plus il essaie de créer ce narratif-là, j'ai l'impression que ça l'affaiblit. Parce qu'à un certain point, si tu fais juste dire « Non, non, mais c'est moi le chef, c'est moi le chef. » Tu sais, un président va pas répéter « Je suis le président. » T'as pas besoin de le dire à chaque fois que tu donnes un ordre, tu sais, ça vient de soi. Mais là, le fait qu'il doit s'imposer, qu'il doit hausser le ton, moi, je trouve que ça vient d'une position d'insécurité. Puis on a l'air un peu farfelu, là. Tu sais, sa réponse, je l'ai pas trouvé très béton. Parce que si tu te fâches à une question de même, tu sais, ah, c'est pas fondé, ça n'a pas rapport, ben pourquoi tu te fâches? Pourquoi ça vient te chercher? À un certain point, je comprends que c'est plate, parce que c'est une situation difficile, mais je veux dire, peut-être la réponse, ben c'est pas fondé, mais qu'il y ait pareil, parce que tu peux pas taper sur des militants. Mais après ça, la phrase d'après, tu dis non, mais on est tous unis. Puis on va gagner si on est unis. Ben là, attends, là.
Enlève une bûche, là.
Ben non, mais vraiment, là, c'est un peu plus nuancé que ça. Fait que écoute, je pense que le message va difficilement rassembler les militants. Il y a des divisions. C'est pas nécessairement à dire que 70% du parti veut que Pablo parte, là. Honnêtement, aucune idée. C'est qui? Est-ce que c'est une minorité?
Puis d'ailleurs, là, il y a une lettre qui circule. La presse qui nous dit que c'est comme le clan Rodriguez qui a eu l'initiative par rapport à cette lettre-là qui circule, signée par des présidents d'associations ou des présidents régionaux, je ne me souviens plus du terme exact, là, mais du côté de Pablo Rodriguez, on semble dire que non, t'es au courant de rien, ça se promène, ça vient pas de moi, ça vient de d'autres gens qui font signer ça. D'après moi, l'équipe à Pablo Rodriguez fait très bien ce qu'on sait avec cette lettre-là, mais bref.
Mais oui, puis je tiens à mentionner qu'il y a des présidents d'associations, s'il y en a 50 présidents d'associations qui se prononcent en faveur d'un congrès pour un vote de confiance, il doit avoir lieu.
Okay.
Donc, il peut avoir un congrès exceptionnel à 2 conditions, soit s'il y a 500 signatures de militants, soit s'il y a 50 présidents d'associations qui signent en sa faveur. Donc, je pense que c'est logique si on veut avoir des... Si on veut mettre une certaine pression d'avoir des présidents d'assaut qui signent, parce que plus tu te ramènes à ce 50-là, plus tu vas dans une position d'un vote de confiance. Fait que je pense que pour Pablo, ça va être un moment qui est très stressant. Puis les appels à la démission là, se multiplient là, de différents médias, de différentes parts, internes et externes au parti, présents, passés, presque futurs. Je veux dire, tout le monde a une opinion sur la chose. Moi, ce qui me fait peur, c'est un épisode à la Joe Biden. Où ce que, bon, finalement, on réalise trop tard, je sais pas, après le premier débat, que ça va pas le faire. Là, faut sortir un chef de nulle part, puis là, il y a pas le temps de se faire connaître. Puis là, tu sais, une situation un peu désastreuse. On est à 1 an des élections. Il y a quelque chose à faire. On est loin d'être fini, là. C'est sûr, c'est pas énormément de temps, mais on a le temps de faire quelque chose. Mais en ce moment, plus on attend, plus on se tire dans le pied.
Et d'ailleurs, hier, Le Devoir rapportait qu'il y a quelques semaines de ça, avant la crise, pour éviter une situation à la Joe Biden aux États-Unis, on est allé changer des dispositions à l'intérieur de la constitution du parti parce que jusqu'à ce moment-là, ça prenait une course à la chefferie. Si quelque chose se passait, ça prenait une course à la chefferie pour nommer un chef. Là, avec ce qu'on est allé changer, si on est à assez près d'élection, on n'aurait plus besoin de course à la chefferie et on pourrait nommer un chef.
Oui, et les conditions sont quand même intenses. Il faut que le caucus des députés, le conseil exécutif du parti et le conseil des présidents d'association se mettent d'accord sur un candidat, chacun à la majorité. Puis ce candidat-là deviendrait donc chef, et non chef intermédiaire, vraiment intérimaire, chef, jusqu'à le prochain congrès où ce qui serait entériné. Donc les gens, puis ça c'est une question qui a été posée, mettons, on est 3 mois avant les élections, on met quelqu'un, on gagne les élections, puis on fait un congrès, puis on vote, puis on le met à la porte. Mais si cette personne était premier ministre, il n'est plus premier ministre.
Ah ouais.
Il y avait cette situation-là où, parce qu'après l'élection, on peut décider si on garde cette décision-là parce qu'elle ne vient pas des militants, est-ce qu'on le garde, ce chef-là, il y a un vote. Mais c'est très particulier comme disposition. C'est vraiment, comme tu mentionnes, un peu dernière minute pour éviter une situation de crise. Mais c'est assez ironique. 3 semaines avant tout ce qui a pété, on a introduit dans la Constitution cette mesure-là. Écoute, il y a des complotistes parmi nous qui vont peut-être faire des liens. Moi, je ne penserais pas. Mais à un certain point, ça reste que la mesure, elle existe. Puis elle va peut-être être mise en place beaucoup plus tôt que ce que n'importe qui s'attendait.
Parlons-en des prochaines élections, parce que de façon théorique, on est encore à peu près un an, moins d'un an maintenant, mais quand même, c'est dans un petit bout encore. Sauf que là, plus que jamais dans les prochaines heures, vous allez entendre parler de possibilités d'élections hâtives, d'élections anticipées. C'est-à-dire que François Legault pourrait dire on part en élection là, puis on fait ça, on va voter avant le mois de novembre prochain. Là, il y a Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, qui a été questionné ce matin sur la possibilité d'élections hâtives.
Ça marche dans la neige durant les fêtes. Si ça marche dans la neige est déjà faite, est-ce que c'est dans l'intérêt du Québec d'avoir une autre session absolument clivante en fonction des tentatives partisanes de la CAQ d'influencer les sondages? Ça donne quoi, rendu là?
C'est essentiellement ce que vous avez dit à mon collègue, mais le demandez-vous, là, plutôt que de lui demander de réfléchir, ce qui est
non,
une
non,
façon de détourner.
Mon... Ben, oui, c'est ça, mais quand même, c'est ça ce que j'ai à dire ce matin. Je lui demande de réfléchir à ça parce que c'est pas dans l'intérêt public de faire une autre session de clivage qui mène à très peu de résultats en termes de politique publique.
Est-ce qu'un autre intérêt pour vous aussi, c'est que ça vous mettrait en opposition avec un parti libéral dont Pablo Rodriguez serait potentiellement encore le chef? Est-ce que ça fait partie de la réflexion aussi? Parce que M. Rodriguez en a parlé comme d'un argument pour se rallier derrière lui, la possibilité d'élection à court terme. Est-ce que vous aussi, ça ferait votre affaire pour que ce soit encore lui le chef?
J'ai l'impression que ça fait plus partie de la réflexion de François Legault. Dans le sens que, tu sais, traditionnellement, il n'y a pas vraiment d'interchangeabilité entre le vote libéral et le vote péquiste. Là. C'est que ce sont quand même des univers très différents. Donc, ça peut faire partie des considérations de François Legault, mais à la base, on a l'impression que ce gouvernement-là a envoyé sur la table toutes ses cartes qui permettaient de cliver. C'est malsain. Puis à la fin, là, quand il n'y a plus de cartes et que les jeux sont faits, si ça marche dans la neige est déjà fait, qu'est-ce qui reste là? Sûrement pas, j'espère, une autre session où la CAQ ne pense principalement qu'à ses intérêts partisans au détriment du climat social.
On s'entend, Charles, que la CAQ n'ira pas en élection en disant Paul Saint-Pierre Plamondon a raison, pour le bien des Québécois, c'est vrai, on a donné tout ce qu'on avait. Non, si la CAQ décide de retourner en élection plus tôt que prévu, ce sera strictement parce qu'on considère que stratégiquement, c'est la meilleure chose à faire pour rester en vie, pour se sauver à poule.
Moi, tout ce que j'entends dans ce speech-là, c'est « Frankie, donne-moi un job, je vais en faire mieux que toi, puis ah ouais, c'est mon cadeau de Noël, parce que je veux dire, t'sais... » Il a fait sa réflexion. François Legault a dit « Moi, je vais rester, je vais être là aux prochaines élections. » Puis, la différence avec tout autre chef, c'est que François Legault ne peut pas être sorti par ses militants. Dans la constitution du parti, il est là, article numéro 1, c'est le parti à François Legault, on en a déjà parlé. Fait qu'il n'y a pas la pression de dire « Hey, je vais faire des élections demain pour pas que, une fois qu'on est rendu au mois de juin, je me fasse taper dessus puis que je sorte. » C'est sûr, s'il dit « Moi, je suis là », il est là. Ça finit là.
Oui.
Fait qu'après ça, t'es Paul Saint-Pierre Plamondon, puis j'aimerais revenir sur ce qu'il dit. Il n'y a pas d'inter. Interchangeabilité entre le vote péquiste et libéral, c'est tout à fait faux. Parce que tout ce que les libéraux ont perdu est allé presque tout au péquiste.
Mais je comprends ce qu'il veut dire dans le sens où c'est pas naturel. Là, on le voit parce qu'on est dans une situation un peu weird. Là.
Ben, moi, la façon que je le vois, c'est que c'est pas naturel comme premier choix, mais c'est naturel comme deuxième choix. Il faut comprendre que beaucoup des gens en politique votent pour la meilleure alternative.
Oui.
Là, en ce moment, on a un gouvernement fortement impopulaire. Les gens ne veulent pas voter pour la CAQ. Ne veut pas dire qu'ils sont des partisans du PQ. Ne veut pas dire qu'ils sont des partisans libéraux ou autres. Les gens votent contre. Et donc, si tu votes contre la CAQ, tu vois les libéraux en détresse, tu vas faire le saut au PQ. Parce que la souveraineté, c'est une chose. Mais c'est pas... Pour certaines personnes, ils peuvent être soit souverainisme, mais c'est un enjeu non prioritaire, ou non souverainisme, c'est un enjeu non prioritaire. Fait que t'es prêt à voter pour un parti souverainiste, pour ses politiques sociales et économiques.
En disant au pays, je voterai non s'il y a un référendum.
Exactement. Donc, c'est pour ça que, dans ces propos-là, moi, je suis pas tant d'accord. Puis là, Paul Saint-Pierre Plamondon est vraiment remonté dans les sondages, justement, à cause de tout ce qui se passe au Parti libéral. Mais c'est un drôle d'équilibre aussi. Là. Ça fait penser à l'image des trois cow-boys qui ont chacun un gun sur l'autre, parce que au Parti libéral, si on déclenche une chefferie, on pose le risque qu'il y a une élection déclenchée, puis là, faut tout chambouler. D'après ça, PSPP, lui, ben, il veut à tout prix qu'on déclenche des élections parce qu'il veut rester dans sa position de force. Puis la CAQ, qui sait pas si c'est mieux de déclencher des élections tout de suite, quand eux sont pas en forme, mais mettons, le PLQ est encore moins en forme, ou s'ils attendent pour voir s'ils sont capables de peut-être sortir de leur sort. Fait que tout le monde a un intérêt au statu quo, mais mm-hmm. au changement. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va se produire, mais je pense que des élections anticipées pour François Legault, présentement, je pense pas que c'est une bonne idée. Là, il a annoncé une bonne nouvelle parce que la loi 2, il y a eu une entente avec les médecins.
Une bonne nouvelle en même temps, tu sais, quand on voit les détails, puis on n'a pas tout encore, là. Mais tu vois ça, tu dis, ouais, les médecins ont eu tout ce qu'ils voulaient finalement, ou à peu près, là.
Ben, je ne l'ai pas lu encore, mais c'est fort probable. Mais au final, on peut crier victoire même sur une défaite, là.
Oui, tu peux faire ce que tu veux.
J'ai hâte de voir, mais t'sais, pour les sondages, ça va être compliqué. Ils ont beaucoup de comptés. Puis là-dedans, moi, ce qui me perplexe, le Parti conservateur du Québec, qui, dans son silence, est dans la meilleure position de tous les partis, dans le sens où ce que il attend, il est posé, il bouge pas trop dans les sondages, il peut taper sur certains enjeux comme Éric Duhaime qui parle de l'UPAC au niveau du PLQ, mais sinon, il attend.
Ouais.
C'est parfait pour eux parce qu'en ce moment, ils sont à 14,3%. Dernière élection est à 13%, aucun siège. Donc, c'est pas comme les autres partis. Tout mouvement de l'aiguille leur fait perdre l'entièreté de leur siège. Ils montent d'un pour cent, ils gagnent 3 sièges, ils baissent d'un pour cent, ils perdent tout leur siège. Donc, c'est très particulier. Ils sont à 3, peuvent monter à 6, peuvent descendre à 0. Mm. Fait qu'ils ont vraiment intérêt à être patients, à regarder ça de loin, à essayer de voir s'ils peuvent pas tirer une coupe de balle de sniper sur certains enjeux, mais ils n'ont pas à se positionner sur grand-chose. Ce n'est pas un parti à l'Assemblée nationale, donc ils n'ont pas besoin non plus justement de rentrer dans la lutte trop pour les médecins, dans des enjeux des fois plus polarisants, parce qu'on dirait qu'il n'y a jamais de bonne réponse. Fait que vraiment, c'est de chercher, faire des gains politiques. Donc moi, j'ai hâte de voir ça. QS est ainsi très silencieux. Pour un parti qui a un nouveau chef, là, moi, j'ai pas vu de grosses sorties.
Bien, on va en parler d'ailleurs de Québec solidaire parce que... Puis c'est drôle parce qu'on n'a jamais abordé ensemble tant que ça tout ce qui est souveraineté du Québec. T'es un libéral fédéraliste, je suis un souverainiste, puis on n'a jamais vraiment trop parlé ensemble parce que j'aime bien, je veux pas qu'on chicane. Mais moi, je me chicane plus avec ceux qui font semblant d'être souverainistes. Moi, t'es fédéraliste, j'ai aucun problème avec ça, là. Tu sais, t'as tes convictions, puis... Mais si t'es un faux souverainiste ou un souverainiste hypocrite, là, tu me fais chier. Puis là, t'es bien plus mon ennemi que si t'es un libéral fédéraliste. Puis Québec solidaire, moi, mettre des conditions à l'indépendance... Pour moi, t'es indépendantiste ou tu l'es pas. Lâche-moi avec tes conditions. Puis je veux qu'on en parle après avoir écouté Sol Zanetti, qui ce matin en point de presse a été questionné. Un peu en lien avec les propos de Manon Massé, qui il y a quelques semaines avait comme un peu dit à Patrice Roy de Radio-Canada qu'elle était pas sûre qu'elle voterait oui à un référendum avec le Parti québécois, ce qui pour moi fait aucun sens, là. Puis ça m'a déçu de Manon Massé, parce que moi, quand je pensais à vrai souverainiste qui l'est profondément, je pensais à Manon Massé, puis là, elle m'a déçu, là. Bref, on entend, c'est Sol Zanetti qui répond aux questions des journalistes par rapport à ça.
Le camp du oui, là, il va être très diversifié. Il va y avoir, ça appartient pas à un parti politique. Il y a la société civile dans le camp du oui. Il y a les Oui Québec, il y a la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, il y a les associations, le mouvement étudiant indépendantiste qui va être dedans. Il y a les allumettes, hein, les féministes indépendantistes. Il va y avoir les nations autochtones du Québec. C'est ce qu'on souhaite, en tout cas. Et ça va être donc un grand camp qui va devoir travailler sur ses consensus. Et nous, à Québec solidaire, c'est ce qu'on propose. Je pense que ce qui peut rallier le mouvement indépendantiste, c'est la question de l'inclusion, qui, son pendant négatif, est très divisif. Alors, pour faire un pays, il faut se rassembler. Pour se rassembler, il faut être inclusif, puis aussi reconnaître la souveraineté des nations autochtones. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. C'est des conditions de réussite de l'indépendance du Québec. C'est pas Québec solidaire, là. C'est les conditions de réussite de l'indépendance du Québec. Et nous, clairement, on va les mettre de l'avant parce que nous voulons gagner. Nous voulons que ça fonctionne.
Mais s'il n'y a pas ça, qu'est-ce que vous allez faire?
Il n'y a pas de scénario dans lequel il n'y aura pas ça. Nous, on va se battre pour ça. C'est ça qu'on va obtenir.
Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon a dit en entrevue avec Patrice Roy, encore une fois, que... il fallait faire un pays, et ensuite, il y aura des gouvernements qui vont se succéder, qui changeront, qui iront un peu à droite, un peu à gauche, comme si on devait seulement faire, disons, un pays, puis ensuite, on pensera à ce qu'il y aura dans ce pays-là. Êtes-vous d'accord avec cette vision-là de l'indépendance?
C'est une façon très péquiste de cadrer le débat depuis des décennies. Okay? Ce n'est pas quelque chose qui a fonctionné. Là, je pense que c'est une responsabilité commune à l'ensemble du mouvement indépendantiste de réfléchir, de remettre en question peut-être des a priori du passé, de voir comment est-ce qu'on peut créer le plus grand rassemblement. Notre proposition est sur la table, l'inclusion, la reconnaissance de la souveraineté des nations autochtones.
On voit souvent le Parti québécois être accusé d'exclure, que quand t'es pas dans la gang, ben on t'exclut. Mais pour moi, ce que fait Québec solidaire, c'est exactement ça aussi. Ou si on le voit de l'inverse, Québec solidaire s'auto-exclut de l'autobus du oui du Parti québécois en disant « Non, ça sera cette façon-là, puis ça va être ça. Puis... » Ouais, mais vous avez 8 % dans les sondages. Vous vous prenez pour qui? Il n'y a personne qui vote pour vous autres, là. Êtes-vous indépendantiste ou vous ne l'êtes pas? Lâchez-moi avec vos conditions. Vous n'avez pas le pouvoir de rien décider puis rien mettre en place en ce moment.
Sol Zanetti a écrit un livre qui s'appelle « Le livre qui fait dire oui ».
Qui est un de mes livres préférés. C'est un des livres qui m'a rendu souverainiste. Puis là, aujourd'hui, il me sort des affaires de même.
Il n'a pas l'air convaincu de ses propres propos. Écoute, moi, ce qui me gosse avec ce discours-là, c'est que... Tu sais, moi, je suis fédéraliste. Tu me demandes, tu le vois comment, ton Québec indépendant? Aucune idée. La seconde qu'on a une souveraineté, okay, il fait ses conditions, PSPP dit « Oui, garde, on va faire ça de même quand on devient un pays. Okay. » Demain, on devient un pays, moi, j'ai voté non. OK, on devient un pays, OK, j'ai une opinion sur comment on va le faire mon pays. Fait que tes conditions, elles servent à quoi? Parce que moi, j'ai aucune idée c'est quoi mes conditions, j'en ai pas. Mais la seconde qu'on devient un pays, j'ai une idée de comment il va se faire. Fait que l'autre 49% là, qui a voté non, ben ils ont une opinion. Ils vont voter pour le prochain gouvernement, vont voter sa constitution, vont voter sur si. Fait que tes conditions, elles servent à quoi? Parce que la moitié, toutes les gens qui votent non, en tout cas, je projette, là, mais n'ont pas vraiment d'idée de « ils veulent quoi dans un Québec indépendant nécessairement » parce
que... Ils en veulent pas.
T'en veux pas vraiment. Fait que tu fais pas une grosse réflexion sur « il serait comment ». Mais la seconde qu'on devient un pays, c'est pas « hey, bye, je m'en vais en Ontario ».
Non, faut qu'on s'entende, puis il faut qu'on le bâtisse ensemble, ce pays-là, avec ceux qui auront voté oui, puis avec ceux qui auront voté non
exact.
Aussi.
Fait que c'est pour ça que t'es l'idée de mettre des conditions à la souveraineté, c'est idiot, parce que même si le camp du oui se met d'accord, il va être comment, ce pays-là? Ben, c'est tout le monde qui
fait
ça. Tu
vas avoir des élections après, puis ce sera pas autoritaire, là, puis tu mais resteras pas au pouvoir. Paul Saint-Pierre Plamondon ne deviendra pas le roi du Québec jusqu'à sa mort. Là. 4 ans après, peut-être que ce sera un parti libéral dans un Québec-pays qui sera...
Oui.
Tu sais, ça se peut, ça.
Non, exact. Les seules personnes qu'il faut qu'ils plaident serment à Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est le milieu culturel québécois. Le reste des gens, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Rendu là, c'est pas grave. Il y a juste les artistes qui vont qu'ils votent PQ, mais le reste, ils peuvent voter comme ils veulent. Mais tu sais, dans un Québec indépendant,
on reconnaît le libéral.
Oh! Mais on peut, tu sais, comme tu dis, ça peut être libéral, ça peut être... Il va y avoir sûrement des nouveaux partis qui vont se former parce que, tu sais, moi, je pense que s'il y avait un mouvement, le Québec devient un pays, dans 10 ans, le PQ, moi, selon moi, il explose. Dans le sens, il va y avoir deux partis qui vont se former, où il y a certains... Tu sais, parce que la souveraineté, c'est vraiment une coalition, selon moi, derrière la souveraineté.
Le portrait va changer,
absolument,
c'est clair. À partir du moment où le Québec devient hypothétiquement un pays, ben c'est sûr que le portrait change, parce que là, t'auras plus, à la base, en effet, un parti que c'est ça, son idée numéro un, c'est de faire un pays. Fait qu'à partir du moment où t'as plus cette idée-là derrière le Parti québécois, ben t'as une gang qui, tu sais, t'as une gang plus à gauche qui vont être peut-être dans le nouveau Québec solidaire 2.0. Tu vas encore avoir le Parti conservateur, mais t'auras juste plus cette idée-là de ce concept-là de « on veut faire un pays si on l'a, notre pays ».
Ben oui, absolument. Fait que, tu sais, je trouve ça dommage. Puis t'as raison que c'est drôle de diviser. T'es quelqu'un qui... Puis en plus, t'es Sol Zanetti, dans QS, c'est supposé être le souverainiste.
Ben oui,
là,
mais
c'est
ça qui me déçoit.
Ça avait été Étienne Grandmont. À un certain point, je comprends. Parce que c'est quelqu'un, comme je dis, qu'il est souverainiste, mais c'est moins prioritaire que les enjeux sociaux.
C'est
correct.
Je parlais de Manon Massé qui m'avait déçu, là, parce que je pensais vraiment sincèrement qu'elle, dans son cœur, c'était une grosse priorité, le pays. Je peux dire la même affaire de Sol Zanetti, là, son livre qui fait dire oui, là,
ben oui.
Je sais pas combien de fois je l'ai lu quand j'étais au secondaire. Pis, je veux dire, ça fait partie de pourquoi je suis devenu souverainiste, ce livre-là. Puis là, aujourd'hui, Sol Zanetti est dans un parti supposément souverainiste, mais que là, on est en train de dire qu'on n'embarquera pas dans le camp du oui, puis qu'on va... Parce que, tu sais, ça va exister, ça. Il y aura le camp du oui puis le camp du non, là. Québec solidaire va se placer où?
Mais c'est
Québec
une bonne
solidaire,
question.
Va-tu vraiment se placer dans le camp du non? Je peux pas croire.
Ben, moi, je pense qu'ils vont être... Tu sais, je pense qu'ils vont être dans le camp du oui, mais ils vont être un peu comme le NPD. Un peu comme la coalition au fédéral NPD libéral qu'il y a eu, où c'est que c'est... Je vais mettre du côté du gouvernement, côté du oui, pour avoir des concessions. Pas trop, mais certaines concessions. Tu sais, comme là, ils ont le régime d'assurance dentaire, blablabla. Fait qu'ils vont essayer de tirer pour un support... Un peu comme une négociation, mais je trouve ça vraiment dommage. Parce que ça va venir blesser le mouvement souverainiste, oui. Ça va venir le diviser. Puis s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, puis j'ai l'impression que Paul Saint-Pierre Plamondon, à un certain point, il va les envoyer chier. Il va leur dire, ben non, tu l'es ou tu l'es pas. Ben il le fait déjà un peu, là, mais je pense qu'il va être très arbitraire, c'est très correct, de t'es souverainiste ou tu l'es pas, puis tes conditions, on verra après. Puis s'ils sont pas capables d'accepter ça, puis ils se positionnent du camp du non, ben un, je pense que ça va les blesser. Parce qu'il y a des gens qui sont souverainistes qui votent QS.
Oui.
Puis il va falloir qu'ils choisissent, puis ça va être difficile pour leur base militante. Je pense que pour le parti, c'est un peu spécial. C'est vraiment, vraiment spécial. C'est supposé avoir deux partis souverainistes, deux partis non souverainistes, puis ça se fait comme un certain ballon. Là, c'est pas du tout le cas. Mais on verra aux élections. Peut-être que s'ils perdent assez de sièges, ils vont se wise up, ben, ils vont décider d'être plus...
Peut-être que Québec solidaire n'existera même plus après les prochaines élections.
On verra, on sait pas.
Il y a ça aussi. Là.
Peut-être qu'ils vont perdre leurs députés. Tous leurs députés vont aller au PQ.
Charles Fecteau, merci beaucoup. Toujours un plaisir.
Ben, merci, Max.
On se reparle bientôt. Fait que c'est ça, moi, vous savez, moi, la souveraineté, ça n'a pas de conditions, puis je vais mourir sur cette colline. Au retour, Audrey Pinchot qui est là pour l'Open Mic. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard.